السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد. La dernière fois, on s'est arrêté au moment où l'armée des idolâtres est arrivée dans la plaine de Badr et qu'il y a eu une dissension, une querelle même obscène et vulgaire, entre deux notables parmi les notables et deux chefs parmi les chefs de l'armée idolâtre, Abu Jahl et Utbah ibn Rabi'a. On avait rappelé que Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, puisqu'il se convertira à l'islam par la suite, va aller voir Utbah pour le convaincre de dire aux gens de repartir à la Mecque. Utbah ibn Rabi'a va le charger d'aller prévenir Abu Jahl, et il va prendre la parole devant l'armée pour dissuader les gens de combattre et de faire demi-tour, en leur expliquant que s'il s'agit juste de la vengeance pour Amr ibn al-Hadrami, il s'en occupe et il paierait le prix du sang. Sauf que Abu Jahl, il était hors de question pour lui de faire demi-tour, donc il est venu et il l'a humilié. Et pour l'humilier, il a utilisé plusieurs arguments. Le premier, c'est qu'il l'a insulté de lâche. Il a dit « Jabuna Utbah ». Utbah est devenu lâche aujourd'hui. Le deuxième argument, c'est qu'il a utilisé son fils, puisqu'un de ses deux fils est converti à l'islam et il est dans le camp d'en face. Et donc il a dit, en réalité, il voit très bien que nous n'allons faire qu'une bouchée de cette armée musulmane, puisqu'ils sont trois fois moins nombreux que nous allons faire deux qu'une bouchée. Et donc en réalité, il a peur pour son fils. Et donc ici, Utbah va l'insulter. Mais en même temps, il va retourner son avis et sa veste, comme on dirait. Pourquoi ? Parce qu'il veut prouver que ça n'a rien à voir avec son fils. Et il veut montrer qu'il n'a pas peur, qu'il n'est pas lâche. Et donc il lui dit, « Sata'lamu al-yawm ayyun al-jaban ». Toi, en l'insultant, on avait expliqué l'insulte qu'il avait utilisée la semaine dernière, tu verras qui d'entre nous est véritablement un lâche, toi ou moi. Et ici, Abu Jahl ne se contente pas de ça. Il appelle Amir ibn al-Hadrami, le frère de Amr ibn al-Hadrami qui avait été tué dans l'expédition de l'Ushayra par les musulmans. Et il lui dit, il y a Utbah qui veut repartir et qui essaye de convaincre l'armée de repartir, alors que tu as vu, tu la vois, la voici ta vengeance, elle est en face de toi. Il montre l'armée des musulmans, elle est là. À toi d'appeler, de te lamenter pour réclamer ton droit, c'est-à-dire le fait qu'on a tué son frère et il réclame vengeance. Et donc il va se lever sur sa monture et il va crier, hurler, « Wa Amra, Wa Amra, O Mu'amr, O Mu'amr !» Et il ira même plus loin que ça, puisqu'en plus de crier, il montrera en toute vulgarité et obscénité, il montrera son derrière à l'armée. Et ici, l'armée va être déchaînée. L'armée des idolâtres va être déchaînée et enragée. Donc, ils appuient sur le bouton émotion. Sur le bouton émotion. Et ça fonctionne. Tout le monde réclame la guerre et tout le monde réclame la vengeance. Utba lui-même, qui était là en train de parler, de dire « ça sert à rien, il faut qu'on retourne », lui-même, il tire son épée et il dit « le duel, je veux un duel ». Face à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons de se mettre en rang, de se préparer, parce qu'il voit que quelque chose se passe, que les troupes en face, les ennemis sont en train de se galvaniser, de se monter à la tête aux uns aux autres, donc là, le combat est imminent. Nous on sait que ça va commencer par des duels, et ensuite il y aura l'attaque générale. Mais là, à ce moment-là, le professeur Sam ne le sait pas encore. Lui, tout ce qu'il voit, il voit une armée qui est en train de se déchaîner. Et donc, il ordonne qu'on se mette en rang. Et ici, le professeur Sam va donner une grande importance au fait de se mettre en rang et de se mettre correctement en rang. Puisqu'il va non seulement l'ordonner, et il va passer dans les rangs pour vérifier que les rangs soient bien droits. On voit tout de suite la différence entre une armée idolâtre, certes très nombreuse, certes très armée, mais qui est en train de se déchaîner, de n'utiliser que les émotions, d'être dans la vulgarité, l'obscénité, et en face, quelqu'un qui reste calme et serein, et qui veut que tout soit carré, organisé. Peu importe les émotions d'en face, il ne répond pas à l'émotion par l'émotion. D'ailleurs, à ce sujet, si le professeur Hassan le fait et exige que les musulmans se mettent en rang, c'est tout simplement pour répondre et pour mettre en application un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanun marsous » Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en étant en rang, en étant rangés. Comme s'ils étaient une bâtisse bien construite, bien droite. Une maison, un édifice bien construit, ferme. Allah aime ces gens-là. Et le prophète sallam nous a enseigné la même chose pour la prière. On se met en rang pour la prière et les rangs doivent être droits. Le prophète sallam avait aussi quelquefois l'habitude de passer dans les rangs de prière pour vérifier que les rangs étaient bien droits. Et il ordonnait à ce que les gens se rangent pour la prière. Et il le fait aussi pour se préparer au combat. Et ça, il le fait par souci d'unité. Et c'est aussi la différence qu'il y a entre cette armée et l'armée d'en face. L'armée d'en face est certes en train de se galvaniser, mais deux minutes avant, ils étaient en train de s'insulter. Alors que quand le professeur Sam ordonne à son armée de se mettre en rang, c'est aussi pour prouver, pour démontrer que malgré les différences qu'il peut y avoir entre les compagnons de la Mecque et ceux de Médine, malgré les différences qu'il peut y avoir entre un tel et un tel, quand il s'agit d'une cause collective, ils sont unis. Ils doivent être unis en réalité, mais ils doivent être aussi unis dans la vision qu'ils donnent. Parce qu'il faut aussi délivrer au camp d'en face ce message d'unité. On est peut-être moins nombreux que vous, mais on est unis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur les rangs. Il passe dans les rangs pour vérifier que ce soit bien droit, aussi par souci d'organisation. Contrairement encore une fois au camp d'en face. Tout est désorganisé en face. On y va plus, finalement on y va. Et ça crie sans qu'on ordonne de crier, ça part dans tous les sens. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des ordres et ces ordres sont appliqués. Une organisation pyramidale. Et c'est aussi un message de fermeté et de détermination. Quand on est en rang, qu'on se met droit, c'est pour être prêt à recevoir les coups. Parce que c'est ça, quand le camp d'en face est en train de se galvaniser et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à tout le monde de se mettre en rang côte à côte et dans des lignes bien droites, c'est pour être ferme face aux coups et face aux attaques qui vont être portées. Pour montrer la détermination. Non. Le professeur Hassan va passer dans les rangs. Et ici, il y a un compagnon, Sawad ibn Ghaziyya, radiyallahu anhu, qui est décalé. C'est-à-dire, tout est droit, le professeur Hassan vérifie. Et il y a un homme qui est, hein, Sawad ibn Ghaziyya, radiyallahu anhu, qui est un petit peu en avant. Et le professeur Hassan passe dans les rangs, il vérifie. Vous imaginez, pendant ce temps-là, le camp d'en face est en train de hurler sa haine, d'insulter sa haine. Le professeur Hassan reste serein et calme et il fait les rangs. Il range, il ordonne de se mettre en rang. Et il arrive à côté de cet homme, malgré les invectives, malgré les rappels, il faut mettez-vous en rang, mettez-vous trois, mettez-vous droit, rentrez dans le rang. Cet homme reste sur place, reste à sa place. Et c'était voulu de sa part. Puisque vous allez comprendre par la suite avec ce qu'il va dire. Le professeur Hassan passe avec un... Il a un bâton. Le bâton d'une flèche. Et avec le bout de ce bâton, quand il arrive devant cet homme, qui apparemment ne bouge pas de sa place, il ne rentre pas dans le rang, le professeur Hassan le pousse doucement sur le ventre. Tout en lui disant, tout en lui demandant et en lui ordonnant de rentrer dans le rang, de se mettre droit. Et cet homme, Sawad ibn Ghaziyya, il se plaint. Et il lui dit, « Awja'tani ya Rasulallah, tu m'as fait mal au messager d'Allah. Wa qad ba'athaka Allah bil haqq wal adl, fa aqidni. Tu m'as fait mal au messager d'Allah. Et Allah t'a bien envoyé avec la justice et la vérité. Alors rends-moi mon droit. Aqidni, c'est la sentence œil pour œil, dent pour dent. Yani la loi du talion. Ce que tu me fais, je te le fais. C'est ça, aqidni. Ça vient de l'waqad, le qasas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça. Imaginez-vous, un leader, un chef d'armée, qu'il a comme seul souci que son armée soit unie. C'est pour ça qu'il est mis en rang. En face, il y a une armée qui est en train de se galvaniser, de se monter la tête et qui veulent juste une chose, c'est faire une seule bouchée. Et il a un homme qui n'a rien trouvé d'autre que de dire « Tu m'as fait mal ». La réaction de beaucoup de leaders à ce moment-là, ça aurait été traître. Tu es un traître, capturez-le. Il va faire du tort à notre armée. Le professeur Hassan, quand cet homme lui dit « Aqidni, rends-moi mon droit », le professeur Hassan laisse apparaître son ventre. Et il lui donne le bâton et lui dit « Très bien, je t'ai fait mal, eh bien rends-moi le coup. » C'est ce que tu réclames, rends-moi le coup. L'homme prend le bâton. Et il saute sur le professeur sallam et il l'enlace et il se met à embrasser son ventre. Le professeur sallam ne comprend pas. Il se plaint d'avoir eu mal. Il demande, il réclame son droit. On a d'autres choix à fouetter à ce moment-là. Bon, très bien, et passons, le professeur Hassan accepte pour passer à autre chose, parce que ce n'est pas le moment. Et ce qu'il veut, c'est préserver l'unité de son armée à ce moment-là, le professeur Hassan. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire ce qu'il a réclamé, ce qu'il a demandé, c'est-à-dire de, a'oudhou billah, mettre un coup au professeur Hassan, il enlace le professeur Hassan et il embrasse son ventre. Le professeur Hassan lui dit, « Ma hamalaka ala hadha ya Sawad ?» Explique-moi, Sawad, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu demandes ton droit et finalement, tu m'embrasses, tu m'enlaces. Il lui dit, ya Rasulallah, qad hadara ma tara. Ô messager d'Allah, arrive aujourd'hui ce que tu vois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Nous, pas très bien armés, pas très bien protégés, pas assez nombreux, face à une armée déchaînée. Voilà. Il arrive aujourd'hui ce que tu vois de tes propres yeux. فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ. J'ai donc voulu que la dernière chose, parce qu'ils si ils sont venus avec ça là, à ce moment-là, ils se disent on va mourir. Et c'est ce que le camp d'en face d'ailleurs avait compris avec l'analyse de l'expert militaire, comme on avait dit la semaine dernière, la semaine d'avant. Ils viennent pour mourir, ils savent que de toute façon ils vont mourir. Ils sont trois fois moins nombreux. Donc il lui dit qad hadara matara. Il arrive aujourd'hui, ce que tu vois. Et j'ai voulu que la dernière chose qui m'arrive dans ma vie, c'est que ma peau touche ta peau. Alors j'ai monté ce stratagème. Ah, yani, je me suis mis en dehors du rang, j'ai attendu que tu arrives pour que tu me pousses. Et quand tu me pousses, je réclame mon droit que pour moi aussi je te pousse. Juste pourquoi? Pour t'enlacer et pouvoir t'embrasser. Ajib. Si on voit que cet homme, comme les autres compagnons, sont prêts à mourir. C'est-à-dire ils sont prêts au plus grand des sacrifices. On voit aussi à travers ça l'amour qu'ils ont pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qu'on recherche tant. Cet amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam qui est un trésor qu'on recherche. On voit aussi à travers l'amour de ce compagnon pour le prophète, c'est pas juste l'amour du compagnon pour le prophète, c'est aussi l'amour du soldat et le respect du soldat pour le chef, puisqu'à ce moment-là, ils sont aussi dans cette situation. En plus d'être compagnon et prophète, il y a un chef d'armée et il y a un soldat. Et dans des moments difficiles comme celui-là, le soldat montre qu'il aime son chef et qu'il est derrière lui, qu'il l'admire, qu'il le respecte énormément. Aussi, on peut trouver à travers ça aussi, c'est que cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, Sawad ibn Raziya, a voulu que sa peau touche la peau du professeur sallam, l'embrasser aussi, parce qu'il y a dans le corps du professeur sallam la baraka, la bénédiction. Et il veut avoir de cette baraka avant d'aller au combat. Et aussi, parmi les fawa'id et parmi les bénéfices qu'on peut tirer de ce récit, c'est que si le professeur sallam a montré son ventre, c'est que le ventre n'est pas awra. En tout cas, au-dessus du nombril, c'est pas awra. Et ça, c'est un des textes qui sont utilisés par les savants, justement, pour prouver dans le fiqh, dans le droit musulman, que le ventre, une grande partie du ventre n'est pas awra. Et en dessous du nombril, en tout cas à partir du nombril au genou, c'est considéré comme awra, même si, yani, c'est plus compliqué que ça. Yani, il y a ce qu'on appelle l'awra al-mughallada ou l'awra al-khafifa. Yani, la grande awra, celle que vraiment il ne faut pas montrer, c'est-à-dire les parties intimes. Et après, plus on s'approche du nombril et plus on s'approche du genou, en tout cas pour l'homme, et cette awra existe, mais elle est moins importante. Non. Comme l'a expliqué, entre autres, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ici, donc le professeur a mis ses hommes en rang. Parmi les choses aussi qu'on peut indiquer, c'est que vous vous rappelez que le professeur avait fait construire, après la consultation, plutôt après l'opinion de l'Hubab ibn al-Mundhir, il avait fait creuser un bassin dans lequel ils avaient de l'eau. Et ils avaient bouché la plupart des puits pour que les ennemis n'aient pas accès à l'eau. L'armée des idolâtres arrive et ils ont extrêmement soif. Ils n'ont plus d'eau. Et le seul moyen d'avoir de l'eau, c'est d'accéder au bassin, au mini lac, au mini bassin qui a été creusé par les musulmans, sauf que les musulmans le gardent. Alors à propos de ce bassin, il y a deux choses qui vont se passer très probablement à ce moment-là. Alors il y a une chose, d'abord avant d'arriver au bassin, parce que subhanallah, je vais le dire depuis deux semaines, la semaine d'avant, je l'ai oublié, je vais le dire la semaine dernière, je l'ai oublié, et là ça vient de me revenir en tête. Je me suis dit j'allais commencer par ça et là ça vient de me revenir, donc si je ne le dis pas maintenant, je ne vais pas le dire, je pense. C'est qu'il y a un événement aussi qui est arrivé au moment où le prophète sallam est arrivé à la plaine de Badr qu'on a oublié. Enfin, en tout cas, que j'ai oublié. C'est que le prophète sallam, quand il est arrivé à Badr, parmi les événements qui se sont passés, il y a le fait qu'il a renvoyé deux compagnons. Et ce sont deux compagnons qui n'étaient pas avec eux dans l'armée. Ce sont deux compagnons qui venaient à peine de les rejoindre. Ils n'étaient pas avec eux et ils les ont rejoints à Badr. Et en fait, ce sont deux compagnons, le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, et son père. le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman et son père viennent d'arriver à Badr, ils rejoignent les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de repartir. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi. Et en fait, s'il leur demande de repartir, c'est parce que ces deux compagnons, Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu et son père, ils viennent de la Mecque. Et en venant en route, ils se sont fait capturer par l'armée des idolâtres. Ils les ont attrapés. Donc ils leur ont dit, vous allez rejoindre votre prophète pour l'aider. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, en effet, quand il a entendu qu'il y avait une guerre, etc., il est parti avec son père, ils ont dit, il faut qu'on aille les aider, ou il faut qu'on aille les prévenir et les aider au plus vite, puisqu'ils étaient à la Mecque. Mais ils n'avouent pas, ils disent pas, oui c'est vrai, ils disent non, pas du tout, vous voyez bien qu'on va vers le nord, on allait à Médine nous. On n'allait pas du tout prévenir le prophète ou quoi que ce soit, puisque là c'est question de vie ou de mort, s'ils avouent ils vont mourir, on va les tuer. Abu Jahl dit non, vous voulez aller rejoindre votre prophète. Mais non, c'est pas du tout, au contraire, on allait à Médine, on n'est pas concerné par cette affaire. Abu Jahl leur dit, eh bien on va vous lâcher, mais à une condition. Vous nous donnez votre engagement, que ce que vous nous dites c'est vrai et que vous n'irez pas rejoindre le prophète. Et ils donnent leur engagement. Nous vous donnons notre engagement que si vous nous relâchez, on n'ira pas rejoindre le prophète, on n'ira pas l'aider. Et donc ils les relâchent. Sauf que Hudhayfa ibn al-Yaman et son père, ils réfléchissent, ils disent non, ils disent même si on leur a donné un engagement, à ce moment-là, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore au courant que toute cette armée est partie, que Abu Sufyan va sauver sa caravane. Donc, ils décident, malgré l'engagement qu'ils ont donné aux idolâtres, de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui explique ce qui s'est passé en route. On est venu, etc., ils nous ont demandé l'engagement, mais évidemment, on ne pouvait pas. On se serait senti coupable, donc on est venu, on t'a rejoint, déjà pour te prévenir et pour vous aider. Et le professeur Sam va leur dire Nafi bi'ahdihim wa nasta'inu Allah alayhim. Nous respectons les engagements que nous leur donnons et pour le reste, nous implorons à Allah de nous aider contre eux. L'aide d'Allah nous suffit amplement. Repartez à Médine. Respectez l'engagement que vous avez donné. Et ils sont partis. Voilà pourquoi le professeur Sam les renvoie. Parce qu'ils ont donné leur engagement. Et on voit que ici c'est extraordinaire, fait le haqiqa. Le professeur Sam sait à ce moment-là qu'il est trois fois moins nombreux, puisqu'il est déjà arrivé à Badr, que les idolâtres, et pourtant, il leur demande de repartir, pour respecter l'engagement. Alors qu'ici c'est une question de vie ou de mort. Par contre, même si c'est quelque chose de formidable qui est fait ici par le professeur Sam, les savants se sont posé la question, est-ce que dans un pareil cas, dans un cas qui ressemblerait à ça, le musulman serait en obligation de remplir son engagement? C'est-à-dire on est en situation de guerre, il y a un musulman qui donne son engagement à l'ennemi qui est en train de faire du tort aux musulmans et à l'islam. Est-ce qu'il a, comme le montre ce récit, l'obligation de respecter son engagement? En fait, la majorité des savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait par obligation. Il pouvait, parce que c'est un cas extrême, c'est normal que ces gens-là, que les compagnons donnent leur engagement parce qu'ils doivent protéger leur vie, mais en même temps, ils ont droit de revenir sur cet engagement parce qu'il est caduque. Le prophète Hassan ne l'a pas fait par obligation, c'est une chose qu'on peut faire. En période de guerre comme ça, quand quelqu'un a donné son engagement à l'ennemi, il peut décider de respecter l'engagement et il peut ne pas respecter cet engagement. Mais le professeur Salem décide de le faire, de le respecter. Pour plusieurs raisons et la raison principale c'est que c'est la première guerre. Et on sait et il sait que n'importe quel message qu'il enverra sera aussi interprété par les autres tribus arabes. Ceux qui ne sont pas encore vraiment concernés par cette affaire vont entendre parler de cette guerre. Et les Quraysh pourraient utiliser par la suite, on a été à la guerre, et il y a même deux qu'on avait capturés, soi-disant ils nous ont donné leur engagement, ils étaient là. Alors qu'au contraire, si ces tribus entendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses deux compagnons de respecter leur engagement, le message qui est passé est tout autre. Même si toutes ces tribus auraient été les premières à comprendre en réalité que c'est une situation de guerre, c'est normal, ils ont donné un engagement, c'est pour sauver leur vie, mais en même temps, ils sont d'un certain côté, c'est normal qu'ils aillent les aider. Ils auraient tous fait la même chose. Non. On peut revenir à présent à cette histoire de bassin creusé. On va parler de deux choses à propos de ce bassin qui vont se passer à ce moment-là. La première, c'est qu'elle n'est pas authentifiée. Première anecdote, elle n'est pas authentifiée. La deuxième, elle l'est. Première anecdote qui n'est pas authentifiée parce que la chaîne de transmission elle est jugée mursal, c'est-à-dire elle s'arrête au tabi'i et ensuite on a une coupure. On est incapable de dire qui a vécu cette anecdote. Donc on ne sait pas si c'est une histoire, une anecdote authentique. Mais en tout cas, cette anecdote indiquerait, j'utilise le conditionnel puisqu'on ne sait pas si elle est authentique, que un groupe d'idolâtres se serait avancé vers le Haoud, vers le bassin d'eau, pour boire. Que les musulmans ont voulu les en empêcher, mais le prophète Hassan leur a dit « Da'ouhum ». À un seul moment, la première fois quand un groupe d'idolâtres est venu pour boire de l'eau, le prophète Hassan leur aurait dit « Da'ouhum », laissez-les. Et le narrateur qui rapporte ce hadith précise: et tous ceux qui ont bu de cette eau ce jour-là, de ce groupe, vont tous périr à la bataille de Badr, sauf un. Hakim ibn Hizam, le fameux compagnon qui n'est pas encore musulman à cette époque-là et qui est du côté des idolâtres et qui nous raconte en détail ce qui se passe dans l'armée idolâtre. Non. Ça c'est la première chose, mais comme je vous ai dit, on ne sait pas si elle est authentique puisque la chaîne de transmission elle a une coupure, elle s'arrête à la génération des tabi'i. Elle ne va pas plus loin. Par contre, la deuxième qui a été authentifiée et qui est une des narrations de Tabari, c'est celle qu'on avait commencé à raconter la semaine dernière. Un homme, donc là on est dans le camp d'en face, on est chez les idolâtres, donc ils sont déchaînés, le bouton émotion fonctionne sur tout le monde et à ce moment-là chacun veut montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire. Et donc on a un homme qui s'appelle Al-Aswad ibn Abdel Aswad Al-Makhzoumi. Al-Aswad ibn Abdel Aswad Al-Makhzoumi prend son épée. Il y en a à ce moment-là, chacun veut montrer avec l'émotion, il veut montrer aux autres ce que lui il est capable de faire. Et donc cet homme, Al-Aswad ibn Abdel Aswad Al-Makhzoumi va dire, le texte qui est rapporté, il nous explique, فخرجَ الأسود ابن عبد الأسود المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق. Et sorti à ce moment-là, الأسود ابن عبد الأسود المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق. Et il était un homme mauvais. Il était mauvais, charis, entêté, dur, rude. Sayyid al-Khuluq était connu pour avoir un très mauvais comportement. Et donc cet homme, à ce moment-là, il sort et il dit « U'ahidullah, la ashrabanna min hawdihim, ou la ahdimannahu, ou la amutanna dounahu. » Je prends mon engagement devant Allah que je boirai de leur bassin. C'est quoi cette histoire? Ils ont un bassin, ils l'ont creusé et on n'a pas droit à l'eau. Ben c'est ce qu'on va voir. Je prends l'engagement devant Allah et devant vous tous, devant l'armée, que j'irai boire de cette eau. Je vais boire de cette eau. Il jure qu'il va boire de cette eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle dans la jahiliya et qui va exister aussi par la suite, ce qu'on appelle un nadhr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions dans le fiqh à propos de nadr, quelqu'un qui fait nadr. Nadr, c'est quoi? C'est quand tu jures que tu vas faire telle chose. Ça, c'est un usage chez les idolâtres. Je jure que s'il m'arrive telle chose, je ferai telle chose. Le problème, c'est que lui, il s'imaginait que ça n'allait pas arriver. C'est pour ça qu'il a juré. Et finalement, ça lui arrive. Comment il fait? Non. La haqiqa, il faut éviter le nadr. C'est pas formellement interdit, mais il faut l'éviter. Mais si quelqu'un l'a fait, alors il doit respecter son nadr, tant que c'est pas un nadr qui l'appelle à désobéir à Allah ou à commettre quelque chose qui est interdit. Non. Il y a quelqu'un qui m'a posé ce genre de questions. Il était parti dans un voyage dans un pays scandinave. Et Al-Muhim, il était à ce moment-là en voyage, il était responsable d'un groupe de jeunes en voyage. Et il se trouve que ces jeunes se sont querellés donc dans le bateau, parce qu'ils avaient une traversée en bateau. Ils étaient sur le retour. Le bateau y allait repartir. Il n'y avait pas encore quitté le quai, et il y a eu une dispute entre certains de ces jeunes et des passagers. Et la dispute, elle est partie tellement loin qu'ils se sont mis à se bagarrer. Donc c'est lui qui me raconte l'histoire. Il me dit, je suis parti pour séparer, il me dit, mais quand j'ai été pour séparer, je me suis pris des coups par le camp d'en face. Et donc il a dit, moi à ce moment-là, il fallait que je me défende. Je suis défendu. Ben, il s'est trop bien défendu. Puisqu'après ces jeunes dont il était responsable, ils ont vu ça, ils ont dit, donc on peut s'en donner à cœur joie. Et ils ont laissé les personnes en face, ils les ont laissés allongés par terre. Donc la police elle a intervenu, elle a arrêté. Et ils l'ont tenu, lui, comme responsable, puisque c'était l'adulte dans l'histoire, et ils l'ont enfermé. Ils l'ont pris, ils l'ont fait descendre du bateau, et ils l'ont mis en garde à vue. Et ça a été très loin, il a été incarcéré. Il est resté, en tout et pour tout, une semaine, incarcéré. Avant que des avocats viennent et défendent sa cause et qu'ils arrivent à le faire sortir de là. Mais pendant le moment où il était incarcéré, je disais dans ma tête, Wallah, que si j'arrive à me sortir de cette situation, il n'y avait pas encore vu d'avocat et les procureurs ou je ne sais pas qui en face, la police, lui disaient qu'il était parti pour un long moment. Si j'arrive à me sortir de cette situation au plus vite, je jeûnerai autant de jours. Je ne sais plus, j'ai oublié combien il m'a dit. Non. Et alhamdoulilah, il a pu sortir au bout d'une semaine quand les avocats sont intervenus. Et donc il a posé la question, il faut respecter le nadr, puisque le nombre de jours, ce n'était pas non plus un nombre inaccessible, infaisable, même si il faut éviter de faire ce genre de choses. Quand tu es dans une situation difficile et que tu as besoin de l'aide d'Allah, appelle, demande à Allah. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser cette méthode, si tu m'aides ou si tu me fais ça, je vais faire ça. Allah, il n'y a pas besoin. Pas besoin que tu lui promettes telle ou telle chose. Demande, implore Allah. C'est largement suffisant. Non, et on voit que ça, c'est dans les habitudes des prophètes. Quand on récite le Coran et quand on médite les versets. Le prophète Younous, quand il s'est retrouvé dans cette situation extrêmement difficile où il a été avalé par un animal de mer, une baleine ou je ne sais quoi, et qu'il se retrouve dans l'abdomen de cet animal, dans le noir, aucune issue. Il ne faut pas être claustrophobe à ce moment-là. À aucun moment il a dit, si tu me sors de là, je vais faire ça. Et il n'a même pas dit clairement, sors-moi de là. Son invocation c'était, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi, gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. Il a compris qu'il a dû faire une erreur quelque part et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Et c'était sa façon à lui de faire dua et Allah il l'a sorti de là. Et on le voit avec le prophète Ayoub, qui, selon les savants et les exégèses, pendant 17 ans, il était malade. Il a été mis en quarantaine par les gens. Parce qu'à l'époque, les gens, ils avaient peur de n'importe quelle maladie, comme aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont peur du coronavirus. Avant, les gens, dès qu'ils voyaient une maladie, c'est contagieux. Va là-bas. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient des Chinois, Msaken, ils y sont pour rien, les Chinois, ils font un bond en arrière. Chinois égale maladie. Subhanallah. Et donc, avec le prophète Ayoub, quel dua il a fait ? Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Seigneur, le mal m'a atteint. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous, si on était malade comme Ayoub, ya Rabbi, je finis. Ash-shifa, on demande la guérison directe. Et c'est pas interdit, bien sûr, il faut la demander. On a même des duas. Le professeur Hassim nous a enseigné des duas, comment demander le shifa. Mais lui, tellement il est proche d'Allah Azza wa Jal, il ne va pas demander directement la guérison. Il demande quoi? La miséricorde. Ô Seigneur, le mal m'a atteint. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux.
c'est-à-dire donne-moi la clémence. Si la clémence elle est dans, ce que je, dans le fait que je continue à être malade, sous-entendu c'est ça qu'il dit dans cette doua, eh bien je préfère continuer à rester malade. Et si finalement la miséricorde elle est dans le fait d'être guéri, alors donne-moi la guérison. Au final, la chose qu'il demande, c'est la rahma, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Naam. Ensuite, donc on revient à l'Aswad ibn Abd al-Aswad al-Makhzoumi. L'Aswad ibn Abd al-Aswad al-Makhzoumi, il va jurer, prendre l'engagement qu'il va soit boire dans l'eau, soit détruire le bassin, soit mourir s'il ne peut pas faire ni l'un ni l'autre. Et donc il va s'avancer et Hamza ibn Abd al-Muttalib va aller à sa rencontre. Naam. Il va aller à sa rencontre et le texte nous dit فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةَ فَأَطَنَّ بِنِصْفِ سَاقِهِ وَهُوَ دُونَ الْحَوْضِ. Et Hamza va être plus vif que lui, il va lui donner un coup et en un seul coup sa jambe sera tranchée au milieu du mollet, niveau du mollet. Ah, c'est pas des couteaux qu'ils avaient, hein. Ah, c'était des sabres, des épées extrêmement aiguisées. Et donc en un seul coup il va lui trancher le pied. Et il va tomber sur son dos. وَرِجْلُهُ تَشْخَبُ دَمَنْ نَحْوَ أَصْحَابِهِ. Et son pied va être ensanglanté, le sang va couler, son pied sera vers يعني, l'armée, vers son armée, vers ses amis. ثُمَّ حَبَ نَحْوَ الْحَوْضِ حَتَّ اقْتَحَمَهُ. Et il va ramper. Vous imaginez la mentalité de cet homme? Parce qu'il a juré. À ce moment-là, il vient d'être amputé d'un pied et il va ramper فَحَبَ نَحْوَ الْحَوْضِ vers le حَوْضِ حَتَّ اقْتَحَمَهُ وَحَمْزَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَّبِعُهُ. Et Hamza le suit. Il est sous-entendu, arrête. Non. Parce qu'il veut montrer que jusqu'à ce qu'il rentre dans le bassin, et à ce moment-là, Hamza, radiyallahu anhu, l'achève. Naam. Ici, ça nous permet de comprendre aussi la mentalité de l'jahiliya. Ça nous permet de comprendre la mentalité de l'jahiliya. Rappelez-vous qu'au moment où tout ça se passe, c'est quand Abu Jahl dit à Utba qu'il est un lâche. Et donc tout le monde veut prouver à ce moment-là qu'ils ne sont pas des lâches. Et ils viennent avec cette mentalité, la mentalité de montrer qu'on est courageux, l'ostentation. Le courage c'est bien, mais l'ostentation c'est mauvais. Et ils viennent avec cette mentalité. Vous avez par exemple un valeureux guerrier dans la Jahiliya qui s'appelait Antarat ibn Shaddad, et qui était aussi un grand poète et un de Ashab al-Mu'allaqat, un de ceux qui ont eu l'honneur que leur poème soit suspendu à la Kaaba pendant une année. Et cet homme a vécu avant l'islam, mais c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte dans l'usage et dans les coutumes de la Jahiliya. Et cette histoire de courage elle est très présente dans ces poèmes. Et c'est avec cette mentalité qu'ils viennent. C'est avec cette mentalité que vient cet homme. C'est un courage borné. C'est bien d'être courageux, mais il faut que ton courage aussi il soit raisonné. Et ils ont un courage, peu importe, n'importe comment. Moi, il faut juste que je montre que je suis courageux. Non, sois courageux et en même temps, essaye de faire quelque chose qui va être bénéfique pour ton armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Et admettons, il aurait bu de cette eau et après, à part montrer qu'il a respecté son serment, il n'y a rien fait de spécial. Ce poète Antarat ibn Shaddad, pour comprendre cette mentalité, et il se récite ces poèmes-là de père en fils, il s'éduque comme ça avec ces poèmes-là. Il dit حَكِّمْ سُيُوفَكَ فِي رِقَابِ الْعُذْوَلِ وَإِذَا نَزَلْتَ بِدَارِ ذُلِّنْ فَرْحَلِ وَإِذَا بُلِيتَ بِظَالِمٍ كُنْ ظَالِمًا وَإِذَا لَقِيتَ ذَوِ الْجَهَالَةِ فَجْهَلِ وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفل فاعص مقالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقاء في الأول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطلي. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Hakim suyufaka fi riqab al-udhali » Sois ferme et déterminé dans les coups que tu mets avec ton épée sur les gens que nous blâmons. Yani les ennemis. « Wa idha nazalta bidari dhullin farhali » Et si tu t'arrêtes dans un endroit, dans un pays où les gens sont humiliés, ils se défendent pas, ah, ils ne sont pas courageux, « Farhali » Alors déménage, reste pas avec eux. Ça peut être contagieux la lâcheté. وَإِذَا بُلِيتَ بِظَالِمِينَ كُنْ ظَالِمًا Et si tu es éprouvé par un injuste, sois injuste. C'est pas sois juste, réclame ton droit, non. Si tu rencontres un injuste, sois injuste avant que lui soit injuste envers toi. غريب يعني السال جاهلية. وَإِذَا لَقِيتَ ذَوِي الْجَهَالَةِ فَجْهَلِي Et si tu rencontres les gens de l'ignorance, sois ignorant, encore plus qu'eux, et avant eux. Comme il dit le proverbe marocain, si tu me détestes aujourd'hui, moi je t'ai détesté depuis hier. C'était pas prévu, mais puisque tu le dis maintenant, alors moi c'est depuis hier. Il y en a la personne qui veut pas que ce soit le dernier. Na'am. Et si le lâche, et c'est ça qu'on reproche à Utba ibn Rabi'a, d'avoir été lâche. Et si le lâche te déconseille, le jour de la rencontre, le jour que tu détestes, le jour de la guerre. Khawfan alayka min izdiham al-jahfali, en prétendant qu'il a peur pour toi d'une armée puissante, d'une armée nombreuse. Fa'si maqalatahu wa la tahfil biha. Eh bien, désobéis à sa consigne. À ce lâche, désobéis à sa consigne, même s'il dit c'est pour ton bien, c'est, moi je veux t'aider. Non, désobéis à sa consigne. Chouf al-jahiliya, comment ils sont. Désobéis à sa consigne. Wa la tahfil biha, et ne lui donne aucune importance. Waqdim idha haqqa al-liqa fil awwali. Et avance, dès que la rencontre arrive, avance et sois en premier, sois dans les premiers. C'est comme ça que tu dois être. C'est Antarat ibn Shaddad. Et c'est comme ça qu'il s'éduque. Et il termine, enfin, le poème est encore plus long, mais nous on se contente de ça. Le dernier vers qu'on citera de lui, c'est وَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَنْزِلًا تَعْلُو بِهِ Et choisis pour ton âme une demeure qui va te mettre haut aux yeux des gens, yani, tu vas être respecté. Si tu repars, si tu es lâche, tu ne vas pas être respecté. Par contre, si tu es devant dans l'armée et que tu combats, là tu vas être respecté. Mais tout ça, c'est que de l'ostentation. Hein. Yani, lui-même, il le dit. C'est pour que les gens te respectent. Et si tu n'arrives pas à faire ça, si tu n'arrives pas à avoir de l'autorité chez les gens, de l'admiration, alors à ce moment-là, il est mieux pour toi de mourir. Sous l'ombre de l'Qastal ou l'Ghubar. Comme l'encyclopédiste Ibn Mandhour le dit. L'Qastal, c'est l'Ghubar l'Wasir. La poussière, quand il y a la guerre, la poussière elle monte comme ça. Et donc meurs sous la poussière, c'est mieux que de ne pas avoir de demeure. Parce que soit tu as une bonne demeure aux yeux des gens de ton vivant, soit si tu n'y arrives pas, meurs comme ça et tu auras une grande demeure et tu seras respecté après ta mort. Non. C'est comme ça qu'il s'éduque. C'est pour ça que cet homme y va et il va jusqu'à la mort. Par contre, je vois que l'heure de l'Aïcha est arrivée, donc juste pour terminer, à ce moment-là, Utba ibn Rabi'a s'avance. Et il réclame le duel. Et trois personnes, trois jeunes compagnons de Médine vont sortir puisqu'il y a en face trois personnes. Utba ibn Rabi'a et son frère Shayba ibn Rabi'a et le fils de Utba, Walid ibn Rabi'a. Trois jeunes de compagnons de Médine vont sortir. Mais finalement, ce n'est pas ces jeunes compagnons de Médine qui vont mener le duel. Mais tout ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bi'ibnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.